une usine de 180 millions de dollars. Ça sera pas en Ontario, ça va être au Québec.
Bonsoir. C'est maintenant officiel. La société Moderna construira une usine de fabrication de vaccins à Montréal. Le Québec dame ainsi le pion à l'Ontario, qui espérait aussi attirer ses nouvelles installations du géant pharmaceutique américain. L'objectif, produire à terme 100 millions de doses par année de vaccins à base d'ARN contre différentes maladies, notamment la COVID-19 et la grippe. Ce sera aussi un moyen pour le Canada d'éviter le genre de problème d'approvisionnement que le pays a connu au début de la pandémie. Mon collègue Louis-Philippe Bourdeau a assisté à cette annonce. Bonsoir, Louis-Philippe.
Bonsoir, Noémie.
Tout le gratin politique était là, Justin Trudeau et François Legault, qui est allé jusqu'à dire qu'il avait gagné la bataille contre l'Ontario.
Parce qu'en coulisses, on savait vraiment que les deux provinces jouaient du coude. Il y allait de négociations pour convaincre le géant Moderna de choisir leurs provinces respectives. Donc, et on l'a entendu en manchette, M. Legault est arrivé le torse bombé de fierté pour cette annonce de cette construction d'usine, usine de 180 millions de dollars qui pourrait débuter dès cet été. Donc, la construction dans un lieu encore qui ne serait pas décidé, encore gardé secret, du moins la production pourrait débuter en 2024. Tu l'as dit, 100 millions de doses par année à terme de ce fameux vaccin à ARN messager. Et à plusieurs reprises aujourd'hui, on a dit bien, Moderna va également investir massivement dans la recherche et le développement. Et ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est de revivre le scénario du début de la pandémie, c'est-à-dire cette dépendance à des facteurs externes concernant l'approvisionnement de vaccins. On peut écouter le premier ministre Legault, suivi du premier ministre Trudeau.
On a vécu un 2 ans pas facile où on cherchait des masques, où on cherchait des blouses. Après ça, on cherchait des vaccins. Donc, on a eu comme notre leçon qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Et on crée un milieu où il y a une effervescence de recherche et de production qui va contribuer évidemment à l'économie ici à Montréal, au Québec, au Canada, mais aussi contribuer aux solutions qu'on peut retrouver dans le monde.
Mais Louis-Philippe, il manque encore des informations importantes, notamment la participation financière des gouvernements dans ce projet.
Voilà. Donc, on ne sait pas où l'usine sera construite et on ne sait pas combien ça va coûter au final aux contribuables. Ce qu'on sait, par contre, c'est que le fédéral va s'engager à acheter une partie de la production de Moderna. Mais dans l'explication du choix du Québec par Moderna, ben, on dit que ce n'est pas nécessairement une question d'argent, davantage une question de possibilité de partenariat avec le milieu universitaire montréalais. On peut écouter le PDG de Moderna à ce sujet-là.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 200 virus qui ont des conséquences néfastes sur l'homme. Il existe des vaccins qui ont à peu près uniquement 20 de ces 200 virus. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est créer une collaboration où on apporte la technologie Moderna, qu'ils n'ont pas. Eux, ils apportent leur savoir et leur connaissance sur un virus, que nous n'avons pas, pour ensemble collaborer et aller plus vite. Il y a des compétences scientifiques extraordinaires dans les universités que je pense ne sont pas assez utilisés dans le monde traditionnel.
Et par la même occasion, on a appris que Moderna pourrait être la première société pharmaceutique à obtenir le feu vert pour son vaccin contre la COVID-19 destiné aux enfants, aux jeunes enfants, là, les moins de 5 ans.
Oui, 6 mois à 5 ans, Moderna, qui a mené un essai clinique auprès de 6700 enfants, dit le vaccin serait sécuritaire. Donc, par courriel Santé Canada, qui m'a confirmé, en effet, être en train d'étudier la demande pour l'approbation de ce vaccin pédiatrique. Maintenant, savoir à quel moment pourrait-il être disponible, bien, ça dépend de plusieurs facteurs. On pourrait avoir encore besoin de données supplémentaires du fournisseur, notamment sur l'innocuité de ce vaccin. Mais en effet, advenant l'autorisation de Santé Canada, ce serait un premier vaccin pédiatrique pour les moins de 5 ans. Donc, le mot Moderna risque de revenir dans l'actualité passablement souvent au cours des prochains mois.
Bien, tu seras là, entre autres, pour en parler avec nous. Merci, Louis-Philippe.
Plaisir.
Ça fera 3 ans demain que la fillette de Granby est décédée. Sa mort atroce après des années de mauvais traitements avait mis en lumière les failles dans le système de protection de la jeunesse au Québec. Et on apprend aujourd'hui que la mère et la grand-mère de la fillette s'apprêtent à déposer une poursuite civile contre la DPJ. Je reçois leur avocate, Maître Valérie Assouline. Bonsoir, Maître Assouline.
Bonsoir.
Merci de vous joindre à nous. Alors, La mort de la fille de Granby avait mené à la création de la commission Laurent, qui elle-même a débouché sur l'adoption d'un projet de loi pour réformer la protection de la jeunesse au Québec, projet de loi adopté il y a 2 semaines. Donc, puis en plus des procédures criminelles, bien sûr, contre le père et la belle-mère de la fillette. Donc, cette poursuite civile, qu'est-ce qu'elle vient ajouter de plus? Qu'est-ce que vous espérez pouvoir faire reconnaître de plus qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant?
Bien, vous savez, après 3 ans sur le terrain, la culture ne change pas. Si cet enfant est décédé, c'est parce qu'on n'a pas cru la grand-mère, on n'a pas cru la mère. Et tout le monde a minimisé les drapeaux rouges, en fait. Et donc, c'est cette culture-là qui doit changer. Après 3 ans, sur le terrain, il n'y en a pas trop de changements.
Donc, la poursuite viserait la DPJ, elle viserait aussi des intervenants individuellement qui ont été impliqués dans le dossier. En même temps, les failles, ce qu'on reproche à la DPJ, c'est aussi systémique. La pénurie d'intervenantes, leur surcharge de travail. Donc, pourquoi cibler individuellement des personnes plutôt que seulement la DPJ dans son ensemble?
C'est une très bonne question, mais en fait, vous savez, cet enfant s'est détérioré et il fallait carrément être aveugle pour ne pas voir qu'elle se détériorait. Et ça, on considère que c'est de l'aveuglement volontaire. Il y a eu des faits, il y a eu des signalements, il y a eu des interventions policières. Et malgré tout ça, il n'y a personne qui est venu la protéger, cet enfant-là. Et ce qu'on veut, en fait, au cœur de cette action, c'est l'imputabilité, c'est s'assurer que les gens qui gravitent autour des enfants et qui sont censés les protéger, eh bien, qu'ils soient imputables. Si vous allez dans un hôpital et on ne vous soigne pas, il y a des gens d'imputables, il y a des médecins d'imputables, il y a des infirmiers d'imputables. Mais à la DPJ, personne n'est responsable de rien. Et c'est ça, c'est cette culture-là qu'il va falloir changer. Et malheureusement, le projet de loi 15 n'est pas venu parler de l'imputabilité. Et ça, c'est un enjeu réel parce qu'il y a des enfants qui meurent et l'après Granby nous l'a prouvé. Vous avez les 2 enfants de Windake qui sont décédés alors qu'ils auraient été censés être protégés. Vous avez des drapeaux rouges que la DPJ ignore et ça ne peut plus se produire. On ne peut plus échapper à un enfant.
Dans le dossier de Windake, justement, vous réclamez aussi 2 millions de dollars dans ce cas-là à la DPJ et au ministère de la Santé dans ce dossier distinct. Est-ce que le montant de dommages réclamé dans le dossier de la fillette de Granby pourrait ressembler à ça?
Ça va être un montant exemplaire, mais vous savez, au-delà des montants, et comme je le disais la semaine dernière, on ne peut pas remplacer un enfant. Hein? La mort d'un enfant, le fait que cette mère et cette grand-mère se lèvent tous les matins et que cet enfant-là n'est plus, ça, il n'y a pas un montant d'argent qui va remplacer la douleur. Mais également la douleur que cet enfant-là a subie jusqu'à son dernier souffle. Vous savez que même le jour où elle était sur sa civière d'hôpital, ça a pris du temps avant que la mère puisse être à son chevet, avant que la grand-mère puisse être à son chevet. Et ça aussi, jusqu'à son dernier souffle, elle a souffert, cet enfant-là. Mmh.
Donc, on en saura un peu plus sur cette poursuite dans les prochains jours, les prochaines semaines. Merci d'avoir été avec nous, Maître Valérie Assouline.
Merci à vous.
Alors qu'on est en pleine 6e vague, vous êtes sûrement nombreux à faire des tests rapides et à vous isoler en cas de symptômes. Et vous êtes peut-être confus sur les nouvelles techniques à utiliser ou sur les règles à suivre en cas de résultats positifs. Notre collègue Camille Lorrain Desjardins a tenté de démêler tout ça pour nous.
Ce qui est important, c'est que dès que vous avez des symptômes, allez vous faire tester. Évidemment, s'isoler 5 jours là, si vous avez un test positif. On est quand même contagieux jusqu'à 10 jours. Donc, au 5e jour, on vous demande évidemment de faire un test. Vous pouvez reprendre vos activités de la 5e à la 10e journée, mais soyez prudents. L'idée, c'est pas d'aller voir des spectacles, sortir dans des bars, aller manger au resto avec des amis. Si le test n'est pas positif à la première journée ni à la 2e journée, puis vos symptômes persistent, normalement, vous restez à la maison, vous portez le masque. Mais effectivement, le test rapide, ceux qui sont actuellement accessibles, ont ce petit défaut-là avec les variants. Et ne pas oublier là, de faire le test là, dans la joue, dans la gorge et après dans le nez.
Depuis quelques semaines, on entend beaucoup les autorités de santé publique nous dire qu'il est préférable de passer l'écouvillon aussi dans la bouche quand on passe un test rapide parce que ça donnerait des résultats plus fiables. Donc, pour vous aider à y voir plus clair, on est venu voir un pharmacien ici pour qu'il nous explique la bonne marche à suivre.
On a besoin de ça.
Est-ce que vous avez reçu une directive, vous, en ce sens-là?
Oui, puis on fait la promotion de la directive pour que ce soit le test positif sorte plus rapidement. Effectivement, on demande le prélèvement sur les joues, le fond de la langue et dans le nez par la suite. Ça diminue les faux négatifs, c'est ça que ça fait, parce que le virus est présent au niveau de la bouche avant d'être présent au niveau du nez. Surtout chez les gens vaccinés, c'est un peu plus long parce qu'on contrôle la charge virale. Fait que si vous pouvez enlever votre masque et vos lunettes, s'il vous plaît. Fait que je prends l'écouvillon. Je vais commencer par la bouche, évidemment.
Oui.
Toujours la bouche en premier. Donc, chaque joue, la première que je fais pendant 5 secondes, l'autre joue, et je vais faire... La langue sans aller trop loin. Parfait. Je commence par la narine. Ça va être un peu inconfortable. Je tourne pendant 5 secondes. Parfait. Donc, j'ai mon prélèvement que je vais placer à l'intérieur de ma solution de contrôle. Je vais mélanger le tout. Je vais mettre 3 gouttes ici. 1, 2, 3. Et on attend 15 minutes.
Là, on va là, qui défile là. On a accéléré.
Donc, votre résultat, pour le moment, est négatif. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de détection. Ce qu'on recommande, c'est de faire, si vous êtes symptomatique, si vous avez des symptômes, vous avez eu un contact étroit, prolongé, c'est de refaire un test 24 heures plus tard. Et je vous dirais qu'avec le variant qui circule, même un troisième test, si les symptômes persistent, un autre 24 heures plus tard pour vous assurer. Les gens manifestaient le fait que le positif ne sortait pas aussi, c'est arrivé. Donc, avec le changement de technique, ça sort un petit peu plus, mais c'est quand même un peu plus long avec le variant BA2 que ça l'était avec le Delta, par exemple.
Si vous êtes, vous n'avez pas été vacciné, vous avez plus de 60 ans ou une maladie chronique, allez passer un test PCR ou allez directement à la pharmacie parce que vous êtes éligible, évidemment, là, on a la chance d'avoir un traitement qui prévient les formes sévères et les hospitalisations. Vous êtes éligible pour un test PCR qui est beaucoup plus sensible et donc probablement que si vous avez des petits symptômes, il risque de sortir positif.
À Ottawa, les autorités sont sur le qui-vive alors qu'un nouveau convoi de protestataires s'organise. Cette fois, ce ne sont pas des camionneurs, mais des motocyclistes qui sont attendus dans la capitale. Un premier rassemblement est prévu dans quelques minutes à 18 h sur la colline du Parlement. Je joins sur place notre collègue de CTV News, Jérémy Charon. Bonsoir, Jérémy.
Hey, bonsoir.
Comment ça se passe autour de toi en ce moment?
Oui, bien, honnêtement, c'est pas trop occupé encore. On attend encore que tout le groupe arrive. Il y a un groupe de 50 à 1000 motocyclettes qui vont arriver ici à quelques temps, mais on attend encore. Donc, c'est comme vous avez dit, à 18 h, c'est planifié qu'il y a un gros groupe qui arrive ici, puis ils sont supposés d'être ensemble. On va vous montrer un petit peu que c'est encore pas mal calme ici. Donc, il y a pas tellement de gens encore. Il y a quelques démonstrateurs, il y a des Canada Flags, il y a des gens ici certainement qui commencent à arriver. Il y a un groupe un petit peu sur la rue, sur Wellington, qui ont commencé à être arrivés, puis ils se mettent ensemble en assemblement. Mais on attend encore, comme j'ai dit, que le groupe de 500 à 1000 motocyclettes arrive.
Et on le voit autour de toi, les mesures de sécurité sont relativement costaudes. Il y a une présence policière qui se fait sentir. Est-ce que les policiers ont appris des leçons du convoi de camionneurs là, qui avait paralysé la ville au début de l'hiver?
Oui, c'est certain. C'est définitivement un début très différent qu'on avait vu avec le convoi des camionneurs. Donc, c'est certain que la police d'Ottawa était vraiment préparée. Comme vous avez dit, il y a des barricades des fois. Il y a beaucoup de police. Il y a une grosse présence de police. Puis nous autres, on est dans une zone d'exclusion. Donc, les démonstrateurs, ils n'ont pas le droit d'entrer dans cette zone ici avec leur véhicule. Donc, ils peuvent venir ici à pied. ils peuvent marcher, mais les véhicules qui ont affaire avec la démonstration, ils n'ont pas le droit dans cet endroit d'exclusion. Donc ça, c'est tout ici au pied du Parlement, puis le War Memorial qui est proche d'ici. Dans toute cette zone ici en ville, ils vont pas être laissés entrer avec leurs véhicules. Donc ça, c'est une grosse mesure que les polices d'Ottawa ont pris pour s'assurer qu'on n'a pas un repeat de qu'est-ce qu'on s'est vu avec le convoi des camionneurs.
Effectivement, mais qu'est-ce que les manifestants demandent exactement, Jérémy?
Et ça, c'est une bonne question. on n'est pas trop certain, honnêtement. Ça a été jusqu'à date très difficile de trouver une réponse à cette question-là. On n'est pas certain. On s'est parlé avec un démonstrateur, ça fait pas longtemps, puis lui, il était pas mal fâché avec les règlements du gouvernement fédéral. Mais ça, c'est lui, c'est son opinion à lui. Donc, avec les organisateurs avec qui nous avons parlé jusqu'à date, il n'y a aucun message clair pourquoi ils sont ici, pourquoi ils viennent démontrer ici pour...
C'est pas clair.
Raison. Donc, on n'a vraiment pas une réponse. Malheureusement, c'est pas clair du tout.
C'est pas clair. Et pour les résidents d'Ottawa, est-ce qu'ils craignent de revivre un peu le même cauchemar qu'en janvier puis en février? Comment est-ce qu'ils voient ça, ce nouveau convoi?
Oui, c'est pas mal fâchant un peu pour les gens d'Ottawa qui habitent ici, qui ont vécu ça il y a juste quelques mois, le convoi des camionneurs, presque un mois, qui ont occupé ici à Ottawa. Donc, c'est certain que c'est pas mal fâchant. Il y a des gens qui vont venir ensemble ce soir à 5 heures pour démontrer qu'eux autres sont fâchés, ils veulent pas avoir ça, puis sont pas préparés pour avoir une autre démonstration ici. Donc, certainement, il y a des gens qui sont pas mal fâchés puis sont pas contents de cette fin de semaine.
Donc, une contre manifestation. Merci beaucoup, Jérémy, de nous en avoir parlé ce soir.
Exactement.
À bientôt.
Merci.
En ce 65e jour de guerre en Ukraine, la Russie a confirmé être à l'origine des bombardements qui ont frappé le cœur de Kiev hier au moment où le secrétaire général de l'ONU était en visite dans la capitale. On va faire le point sur les plus récents développements dans ce conflit avec Sabrina Rivet. Bonsoir, Sabrina.
Bonsoir, Noémie.
Donc, dans un autre secteur du pays, dans le Donbass à l'est, les troupes russes ne semblent pas avancer à vitesse grand V.
À tout le moins, c'est ce qu'avance le Pentagone, donc les États-Unis. Ce qu'on nous dit, c'est que, dans le fond, l'armée russe dans le Donbass progresserait vraiment de manière très, 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 très lente, également de façon inégale. Et l'offensive russe aurait même pris du retard sur le calendrier qui était prévu et la résistance de l'armée ukrainienne qui semble donc tenir le coup. Le Pentagone aussi, qui a accusé Vladimir Poutine de cruauté en raison de la façon dont les forces russes agissent en Ukraine en tuant des civils et, entre autres, on le sait, des enfants. Il y a des troupes qui se trouvent donc actuellement dans la région de Kharkiv et qui tentent toujours d'avancer donc dans le Donbass. Si on regarde donc ailleurs, si on se déplace un petit peu vers l'est, vers Mariupol, bien là, il y a une opération d'évacuation des civils pris dans l'usine Azovstal qui est envisagée. Donc, on va tenter quand même d'aller secourir ces gens-là. Mariupol, qui est une ville fortement dévastée. Et pour ce qui est du bilan du bombardement, des bombardements perpétrés à Kiev hier, on dénombre toujours une dizaine de blessés. Et dans les décombres, bien, les services d'urgence ont retrouvé le corps d'une femme. Et il s'agit, vous allez le voir à l'écran, d'une journaliste, Vera Girich, de Radio Liberty.
Oui. Sabrina, bon, Justin Trudeau faisait son annonce sur Moderna, mais en marge de cette annonce, il a été interrogé sur la présence de personnel diplomatique canadien en Ukraine, à Kiev.
Oui, on lui a demandé pourquoi...
En Russie,
il y avait toujours des fonctionnaires diplomatiques qui se retrouvaient du côté de l'ambassade du Canada à Moscou. Il y a toujours des activités. Alors, il a dit que c'est important de maintenir des liens avec la Russie, des canaux de communication ouverts, en fait, pour garder le contact avec la population russe. Donc, Justin Trudeau qui a aussi précisé que le Canada continue d'essayer de garder des lignes de dialogue avec les Russes. Il faut dire quand même que, par exemple, les États-Unis et plusieurs autres pays européens, eux, ont expulsé des diplomates russes dans la foulée de la guerre avec l'Ukraine. Donc, tout de suite, on peut aller écouter Trudeau là-dessus.
Nous allons continuer d'assurer tout d'abord la sécurité des Canadiens qui travaillent à travers le monde, y compris à Moscou. Mais nous allons continuer d'essayer de garder les lignes de dialogue, de communication ouvertes avec les Russes et même avec l'État russe.
Et simplement dire qu'il y a le président indonésien qui a invité et Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky à l'automne prochain au sommet du G20, puis ça fait pas mal jaser aujourd'hui.
Effectivement. Merci, Sabrina.
Ça fait plaisir.
un film coup de poing sur la prostitution juvénile sort aujourd'hui en salle partout au Québec. On s'entretient avec la réalisatrice de Noémie dit oui après la pause. On va revenir sur la démission du président de la FTQ Construction, le plus important syndicat de l'industrie de la construction au Québec. Rénald Grondin a quitté son poste hier après qu'il ait refait surface les agressions sexuelles qu'il a commises à l'égard d'une employée pendant 2 ans et après que le gouvernement eut réclamé son départ. Notre collaborateur Yves Boisvert est avec nous pour en discuter. Bonsoir Yves.
Bonsoir Noémie.
Alors, est-ce qu'on peut refaire brièvement le fil des événements qui ont mené à son départ? Ça commence... Bien sûr, tout ça a été révélé dans la presse par une de tes collègues, mais les faits remontent à il y a plusieurs années.
Les faits remontent entre 2008 et 2010. Alors, il était président d'un syndicat de la construction, les manœuvres, et il s'est mis à harceler et à agresser sa secrétaire. Maintenant, il y a une décision qui a été rendue. C'est une décision qui est publique. Ça s'appelle la commission des lésions professionnelles.
C'est devenu le tribunal administratif du travail, en tout cas.
Oui, bref.
Mais à l'époque, ça s'appelait la commission des lésions professionnelles.
Et là, ce qui est arrivé, c'est que dans ce tribunal-là, c'est pas lui qui est accusé. C'est pas comme un procès criminel. Il n'y a aucun dossier criminel, M. Grondin. C'est la secrétaire, comme victime, parce qu'on parle de lésions professionnelles, qui a porté plainte contre son employeur, puis l'employeur, c'était ce syndicat des manœuvres. Donc, si tu cherches par nom Grondin, tu le trouveras pas comme partie au litige. Donc, la décision a été rendue, Noémie, ça fait 10 ans. Et elle est sortie hier dans la presse.
Bon, et ça, entre-temps, ça l'a pas empêché, lui, d'être élu président de la FTQ.
De la FTQ Construction, qui est...
C'est énorme. 80 000 membres.
C'est énorme, et c'est... C'est presque la moitié de la FTQ. En tout cas, en termes de cotisation, c'est 30 millions par année. Ils sont très, très puissants. Ils sont très puissants politiquement aussi. Maintenant, là, on se demande, bien, justement, c'est très grave. Ce n'est pas des vagues allégations. Ça a été décidé par le tribunal. Son employeur n'a même pas présenté de preuves contradictoires pour nier les faits.
Puis elle, cette employée-là, elle a été indemnisée.
Oui, parce qu'elle a subi encore, elle vit encore avec un choc post-traumatique. Imagine-toi, ça a duré 2 ans, c'est son employeur. Bon. Maintenant, là, la FTQ Construction dit, ben, on n'était pas au courant. Puis il y a eu des enquêtes avant qu'on soit président de la FTQ Construction ou un officier syndical.
Il est supposé avoir une vérification d'antécédents.
Mais on vérifie juste les antécédents criminels. Et ça, ce n'est pas un antécédent criminel. C'est un litige entre quelqu'un qui était victime de son employeur et l'employeur.
Mais il était au courant, là.
Ben, on ne me fera pas croire qu'il n'était pas au courant. Ce n'est pas un gros monde. Ce n'est pas un gros milieu. L'avocat qui représentait l'AMI, c'est l'avocat de la FTQ Construction.
L'AMI étant ce syndicat des manœuvres.
Excuse-moi, oui. C'est, disons, peu crédible que ça ne circulait pas. D'autant plus, et c'est là que je veux en venir, Noémie, c'est que lui, en dehors de cette question-là, ça n'a même pas de bon sens qu'il soit président de la FTQ Construction. Pourquoi? Parce que c'était un proche de l'ancienne gang qui a été, disons, exposé à la commission Charbonneau. Jocelyn Dupuis et tous les autres, qui avaient des liens avec des gens du crime organisé, qui étaient la main dans la main avec Tony Accurso. Certains de cette direction-là faisaient approuver leur nomination par des gens de la mafia. Et lui est chum avec ce monde-là. Il a défendu Jocelyn Dupuis publiquement, etc. Donc, est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui a changé à la FTQ Construction? Et la réponse, ça a l'air d'être pas vraiment.
Bien, le fait que le ministre du Travail, Jean Boulay, il a lu l'article de la presse, puis presque aussitôt, il a réclamé son départ, ça, c'est quand même intéressant comme développement.
C'est intéressant. Ça aurait dû arriver avant, mais c'est évident que là, ça n'a aucun sens. C'est très rare que le politique veut se mêler de la FTQ Construction. Très rare.
Merci beaucoup, Yves, d'avoir fait le point avec nous.
À bientôt.
À bientôt.
C'est From Montreal.
Yes, well, I'm close.
What is it with Montreal girls? You're all just so hot.
Thanks.
I'm from Philly, and believe me, we get
Le Grand Prix de Formule 1 sera de retour à Montréal en juin après 2 ans d'absence. Ce grand événement n'attire pas que les amateurs de course automobile à Montréal. Il attire aussi les clients d'un commerce sinistre, la prostitution juvénile. C'est le sujet d'un film percutant qui prend l'affiche aujourd'hui partout au Québec et qui s'intitule Noémie dit oui. La réalisatrice Geneviève Albert est notre invitée. Bonsoir, Geneviève. Merci de vous joindre à nous. Alors, le film raconte le parcours de Noémie. C'est une jeune fille de 15 ans qui s'enfuit d'un centre jeunesse et qui, tranquillement, va sombrer dans la prostitution. Et l'action se déroule pendant la fin de semaine du Grand Prix. On pouvait même entendre là, le vrombissement des bolides sur le circuit alors qu'elle attend des clients dans sa chambre d'hôtel. Pourquoi présenter, pourquoi avoir choisi ce décor pour votre film? Pourquoi le Grand Prix?
Oui, bien parce que c'est la fin de semaine où il y a le plus de touristes sexuels à Montréal. Donc, il y a beaucoup de jeunes filles des centres jeunesse qui vont fuguer de leur centre durant cette fin de semaine-là pour aller combler la demande en services sexuels. Donc, je trouvais que sur le plan sociétal, bien, ce constat-là est accablant puis que ça devenait donc une trame de fond qui est intéressante là, pour parler de prostitution juvénile.
Oui, on voit vraiment dans le film à quel point la demande est foisonnante pour la prostitution pendant ce week-end-là. Et vous la montrez, vous braquez les projecteurs sur les clients, en fait. Hein? C'est vraiment eux qu'on voit. On voit des scènes qui n'ont absolument rien d'érotique. C'est laid, c'est insoutenable. Puis, c'est répétitif. Là. À un moment donné, cette mécanique-là de client après client après client, c'est presque intolérable. Pourquoi montrer ça de cette façon-là?
Bien, justement pour que ce soit intolérable pour le public, comme ce l'est pour les filles qui sont dans la prostitution. Dans le fond, les réflexions que j'ai eues à cet égard-là, c'est que les grands invisibles dans notre société, c'est les clients. Ils sont invisibles. Il y a personne qui lève la main pour dire que c'est un client de la prostitution. Ils sont aussi assez invisibles dans nos films et dans nos séries télé. Donc, moi, j'ai voulu qu'ils existent parce que qu'ils existent à l'écran dans mon film parce que pas de clients, pas de prostitution. Donc, sont au cœur du problème. Alors, j'ai voulu, dans le fond, offrir au public une espèce d'expérience immersive où les gens allaient vraiment ressentir ce que ça peut être que de se prostituer.
Bien, ça fonctionne. On vit aussi l'engrenage, comment elle tombe dans cet engrenage de l'exploitation sexuelle avec son chum qui va devenir son proxénète. Et on voit que ça s'installe de manière beaucoup plus insidieuse et peut-être moins brutale que ce qu'on pourrait être porté à croire.
Oui, oui, j'ai eu beaucoup de commentaires positifs à cet égard-là, en fait, parce que j'ai effectivement pas voulu dresser un portrait d'un proxénète qui soit manichéen, ce qu'on voit souvent, là. C'est sûr que ça existe, des proxénètes violents, comme le personnage de Slim dans mon film, mais le visage de la prostitution en ce moment, c'est beaucoup plus un visage qui est similaire à mon personnage, au personnage de Zach. Donc, un gars qui est de prime abord charismatique, gentil, drôle, qui prend soin. Et donc, les filles n'ont aucune raison de se méfier de ces gars-là. Ils sont beaucoup plus à même de dire oui à la prostitution, à n'importe quoi d'autre qu'ils vont leur proposer.
T'sais. Puis nous, on est moins à même de les blâmer pour ce qui leur arrive avec votre film. Merci de nous en avoir parlé. La comédienne Kelly Depau est extraordinaire dans le rôle principal.
Oui.
Allez voir ça. Absolument. Noémie dit oui partout en salle au Québec. Merci.
Merci infiniment.
Je suis tellement désolée, attristée d'être obligée de repousser les spectacles une fois de plus.
La tournée européenne de Céline Dion est reportée pour la deuxième fois, cette fois-ci à cause de sa maladie musculaire dont elle n'est toujours pas guérie. Elle a exprimé sa tristesse et sa déception sur les réseaux sociaux. La chanteuse avait déjà annulé les derniers spectacles de sa tournée en janvier dernier. Le responsable des attaques dans le Vieux-Québec en octobre 2020 était en psychose ce soir-là. Il ne pouvait donc pas savoir que ce qu'il faisait, c'était mal. C'est du moins l'avis du psychiatre Gilles Chamberlain, qui a témoigné pour la défense aujourd'hui. Laurence Royer a assisté aux audiences.
Carl Giroir était en plein délire, qui est une forme de psychose lorsqu'il a tué deux personnes et tenté d'en tuer cinq autres le soir du 31 octobre 2020. Un délire qui lui aurait empêché de comprendre que les gestes qu'il commettait étaient mauvais. C'est du moins ce qu'estime le psychiatre Gilles Chamberlain, qui a été mandaté de comprendre l'état mental de Carl Giroir ce soir-là. Il a d'abord expliqué que dès son enfance, Carl Giroir avait le comportement d'une personne autiste et schizophrène. Selon des rapports produits pendant sa jeunesse, il avait déjà un comportement particulier. Puis le psychiatre affirme que son délire s'est formé à travers les années. Il s'est d'abord créé un personnage qui avait une mission, puis ce personnage est devenu Carl Giroir. Et les jeux vidéo ont contribué à former son délire. Le côté sain de Carl Giroir et son délire ont toujours été en opposition. Puis la pandémie a été un élément déclencheur. Le psychiatre estime que certains éléments, comme son travail, le rattachaient à la vie réelle. Puis quand la pandémie est arrivée, il a perdu son travail et ne faisait que jouer à des jeux vidéo et fumer du cannabis. Son délire a alors pris le dessus. Mais le psychiatre a aussi écarté plusieurs choses qui auraient pu motiver Carl Giroir à commettre ces attaques. Il affirme notamment que Carl Giroir n'était pas quelqu'un qui accumulait de la colère et qui aurait pu vouloir se venger, comme c'est souvent le cas lorsque des gens commettent des gestes d'éclat. Il dit ne jamais avoir été agressé non plus. Il écarte aussi la possibilité que Carl Giroir ait commis ces gestes uniquement pour la célébrité. Pourquoi alors aurait-il pris la peine de se rendre jusqu'à Québec, de faire enlever ses tatouages, de s'acheter une vingtaine de sabres et dépenser plus de 2500 $ pour des masques? Ce n'est pas non plus une personne narcissique, selon le psychiatre. Et Carl Giroir n'aurait pas non plus un trouble de personnalité multiple. C'est plutôt le délire qui cohabitait avec le Carl Giroir sain d'esprit. Le psychiatre doit terminer son témoignage lundi. Et rappelons en terminant que la Couronne tente de démontrer pour sa part que Carl Giroir était en mesure de faire la différence entre le bien et le mal le soir des attaques.
Un nouveau refuge pour personnes itinérantes ouvrira ses portes demain sur une rue résidentielle du quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Le refuge 24/7 pourra héberger 70 personnes. Emmanuel Leroux-Néga a plus de détails. Bonsoir, Emmanuel.
Bonsoir, Noémie.
Et donc, l'ouverture de ce refuge ne plaît pas à tout le monde dans le quartier.
Oui, en fait, c'est que ça crée énormément de remous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les 70 personnes qui seront hébergées au sous-sol de l'église Sainte-Jeanne d'Arc sur la rue Chambly font partie d'un groupe de 120 usagers qui étaient précédemment hébergés à l'auberge Royal Versailles sur la rue Sherbrooke. Alors, si vous êtes bon en maths, vous avez fait vos calculs, vous réalisez qu'il y a 50 personnes qui se retrouvent aujourd'hui sans toit, donc qui vont perdre leur toit. Pourquoi donc un maximum de 70? Bien, tout simplement parce que c'est le maximum autorisé par le propriétaire de la bâtisse ainsi que par l'arrondissement pour, entre autres, préserver la paix sociale. Et comme à chaque fois qu'on parle d'itinérance, c'est jamais facile. Donc, il y a des résidents du quartier qui ne sont pas contents. Pour comprendre leurs enjeux et ainsi que ceux des itinérants, j'ai parlé avec le fondateur de CARE Montréal ainsi qu'avec des résidents de la rue Chambly. Ils nous parlent de leurs enjeux et de leurs préoccupations. Vous habitez en face de ce qui deviendra un refuge pour personnes itinérantes.
On a reçu samedi matin, dans notre boîte à lettres, un avis de la ville. Il n'y a pas eu de démarche, on n'a pas été sondé, pas de consultation, rien du tout.
Donc c'est ici qu'on va s'installer le nouveau refuge?
Oui, samedi à 8 heures, les premiers usagers vont pouvoir entrer. Peu importe qu'est-ce qu'on essaye, on a toujours des gens qui vont être de mauvaise humeur ou pas contents, puis ainsi de suite. La pandémie et la crise du logement, tout ça mis ensemble, a fait qu'on a augmenté énormément le nombre de personnes en situation d'itinérance. Et là, on est rendu, là, nous, on a 300, 350 personnes qu'on doit héberger. Et là, bien, le seul endroit que j'ai trouvé à Montréal depuis un an que je cherche, c'est cette église-là.
On est conscient de vivre dans un quartier mixte. Donc, il y a de l'itinérance, il y a de la consommation, surtout autour du métro Joliette. Maintenant, si on installe un refuge qui opère sur un plan de 24 heures sur 24, ça veut dire qu'il va y avoir du va-et-vient à toute heure du jour et de la nuit. Ça va amener des gens qui viennent chercher des services.
C'est pas une ou deux personnes que je côtoie tous les jours. C'est 70 personnes en situation d'itinérance que je vais être forcé de côtoyer tous les jours.
Et OK, je les amène où? Ça n'existe pas, là, des bunkers souterrains où on cache le monde. Hein? Puis, bien, on ne veut pas les cacher. C'est des citoyens. Ils ont le droit de pouvoir marcher dans la rue, dans la ruelle, aller au parc, et ainsi de suite.
J'aurais pas de problème à cohabiter avec du monde qui cherche pas le trouble, mais je me suis déjà fait agresser, comme physiquement. Puis, à plusieurs reprises, il y a eu des sans-abri qui me criaient après puis qui voulaient se battre avec moi.
Ils disent qu'il s'agit d'un refuge temporaire. Or, on comprend qu'ils sont en train de faire les changements de zonage nécessaires pour pouvoir l'installer à plus long terme.
Mon désir, c'est d'être là 100 ans. Là. Ça ne changera rien, ça, entre mon désir. Mais le désir et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un contrat d'un an. Et j'ai juste un bail d'une année et le zonage et toutes les complexités de zonage, ainsi de suite, font que pour l'instant, je ne peux pas rester ici plus qu'un an, puis que, encore une fois, l'année prochaine, il va falloir reprendre cet exercice-là. Savez-vous combien ça coûte de rénover une église pour réussir à l'aménager en termes de ressources pour faire un refuge pour itinérants, puis que dans un an, on va redéménager pour s'en aller ailleurs, et ainsi de suite. Il y a de l'argent d'impliquer dans ça, c'est nos taxes, ça.
La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on veut pour Hochelaga? Est-ce qu'on veut créer un quartier de refuge pour les personnes en situation d'itinérance? Parce que plus on fait une concentration de services dans le quartier, plus ça va transformer ce quartier en un quartier avec de plus en plus de besoins.
Il y a un manque de 300 à 400 lits en ce moment à Montréal. La grande salle de l'église, là, elle est vide. Il n'y aura personne dedans. Mais elle est chauffée, elle est climatisée, elle est utilisable, mais je ne peux pas l'utiliser. Ça, c'est la plus grande frustration, c'est de savoir qu'il y a des gens qui ont besoin d'espace, qui vont vivre et dormir dans l'espace public, au froid, à la pluie, aux intempéries, et ainsi de suite. Et moi, j'ai l'espace pour pouvoir les accueillir, mais je ne peux pas le faire.
Emmanuel, c'est pas seulement un toit que ce refuge offrira, mais c'est une panoplie de services aussi.
Oui, Noémie, tout le projet est une coordination entre Care Montréal, la ville, l'arrondissement, le CUSS. Il y avait plus de 20 intervenants là, qui étaient autour du projet. Et la différence avec un refuge 24/7, c'est que les personnes n'ont pas à quitter le matin. Ils peuvent rester sur place. Ils sont nourris. Ils ont accès à des intervenants, à des travailleurs sociaux, à des infirmières, à des fois à des cliniques médicales. Donc, tout ça, l'objectif de tout ça, c'est de, au lieu de leur offrir juste un point, un seau comme à chaque fois, de leur offrir une ressource où ils vont rester longtemps et de leur permettre éventuellement de sortir de l'itinérance.
Merci beaucoup, Emmanuel.
Merci, Noémie.
Le gérant de l'équipement du Canadien de Montréal prend sa retraite après 35 ans de loyaux services. Pierre Gervais revient sur les grands moments de sa carrière. Au retour. Un tribunal de l'Italie a statué cette semaine que les enfants italiens porteront désormais par défaut les noms de famille de leurs deux parents, à moins que ceux-ci en décident autrement. Au Québec, c'est légal de donner deux noms de famille à un enfant depuis 1981, mais la pratique est en perte de vitesse. Émilie Clavel s'est intéressée à la question pour des raisons bien personnelles.
J'adore mon nom double.
J'ai jamais vraiment aimé avoir deux noms de famille. Ça m'a tout le temps un peu énervée.
C'était vraiment long. C'était long à écrire. Je devais aller voir la professeure pour lui demander « Peux-tu allonger ta ligne pour mon nom? »
Comme plusieurs jeunes de ma génération, j'ai grandi avec deux noms de famille, même si j'en utilise juste un depuis plusieurs années. En discutant avec des gens autour de moi qui ont aussi deux noms de famille, je me suis rendu compte qu'on avait une relation compliquée avec notre nom double. Et ça devient encore plus un casse-tête quand on a nos propres enfants.
En 1981, le Code civil du Québec, dans la foulée de la reconnaissance du principe d'égalité entre les parents, permet d'attribuer soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms des parents dans l'ordre qu'ils choisissent.
Pour moi, c'est quelque chose qui est symbolique non seulement de ma génération, mais symbolique d'un combat des femmes. De dire que je m'appelle Camille Desrosiers-Godette, je trouve que c'est fort. Je trouve que c'est dire « ma mère s'est battue pour que je porte son nom ». Pour ne pas être effacé.
En 1980, par exemple, 93% des enfants portaient le nom du père exclusivement. En 1990, c'était 71% et 22% le double nom. Aujourd'hui, les dernières données disponibles, en 2010, 85% des enfants portent le nom du père exclusivement et 9% un double nom.
Je voulais que mes enfants aient seulement un nom. Puis dans le fond, je m'étais dit que je donnerais celui de mon copain. Ça fait que ça allait simplifier les choses. Puis finalement, j'ai rencontré Jonathan, qui, lui, a deux noms de famille.
Ça n'a jamais été vraiment mon fort, les deux noms de famille. J'ai toujours utilisé un plus que l'autre. Mais étant donné que ma mère a été adoptée et que je n'avais pas de lien de famille avec les Leclerc direct de sang, j'avais plus tendance à vouloir utiliser Coulombe comme nom pour mes enfants.
Moi, mon combat, en guillemets, c'était pas que Paul porte simplement mon nom. Moi, pour moi, ben, le côté féministe, c'est le côté équité. Donc, c'est que les deux parents soient présents. On a eu quand même une longue réflexion. Quatre noms, c'est pas simple. On sait qu'on peut heurter certaines personnes.
Là, quand est venu le temps de choisir un nom de famille pour tes enfants, ton conjoint de l'époque avait lui aussi un nom composé?
Ah, lui aussi, alors prénom composé, nom composé. J'avais pas envie d'imposer le nom de famille composé à mes enfants. Par contre, qu'est-ce qu'on fait quand on doit choisir le nom de famille, quand les parents, donc les grands-parents des enfants, sont séparés? Ça crée un peu de...
une dynamique plutôt difficile et on a senti la pression qu'il fallait qu'on prenne les deux noms.
Je suis convaincue que si Paul retirait mon nom, je serais blessée d'une certaine manière parce que je pense que ce serait surtout de me dire « OK, j'ai échoué en quelque part dans ce que je voulais lui transmettre. » Quand j'ai su que j'étais enceinte d'un garçon, je me suis dit que ça allait être un travail peut-être double, de m'assurer que ça allait être quelqu'un qui allait respecter la femme, qui allait comprendre la part des femmes dans la société, qui allait être un homme responsable. Puis aussi petit et niaiseux que ça puisse paraître, je trouve que d'effacer le nom de sa mère, ça serait un geste symbolique dans ce sens-là. Donc oui, je suis convaincue que je serais heurtée si j'enlevais le dérosé.
Pierre Gervais est le gérant d'équipement du Canadien depuis plus de 35 ans. Il prend sa retraite aujourd'hui et les joueurs du tricolore lui ont rendu hommage ce matin lors du dernier entraînement de la saison. Pierre Gervais est considéré comme l'un des meilleurs équipementiers de la LNH. Olivier Caron est revenu avec lui sur les moments forts de sa carrière.
C'est une belle carrière, puis je suis fier de ça, surtout avec le Canadien de Montréal, 35 ans que le Canadien. Je suis zéro triste ou zéro... non, pas du tout. Je suis vraiment rendu là. Ça va se terminer, puis ça va être bien grec comme ça. Je le quitte avec le sourire, puis ça va être le fun. J'en ai tellement souvenir. Tu sais, mes années à Trois-Rivières, c'était à mes débuts, c'était super le fun. À Trois-Rivières, on avait eu du succès également. On avait été à Coupe Memorial. On n'avait pas gagné, mais on s'était rendu à Coupe Memorial. C'est des souvenirs impérissables, ça. J'ai gardé la flamme pendant toutes ces années. Mais les deux, trois dernières, là, surtout avec la COVID, là, ça complique les affaires pas mal, le voyagement. J'ai toujours voulu, toute ma vie, avoir la chance et l'opportunité de faire le tour de piste une dernière fois. C'est ce que je fais cette année. J'aurais pas aimé arriver, puis bam, c'est fini, puis tu revois pas ton monde sur la route. Parce qu'au fil des ans, je me suis fait des amis, soit des restaurateurs, dans les arénas. Fait que j'ai eu la chance de leur dire bonjour à tout le monde là. Ce qui va me manquer, ça c'est sûr et certain, c'est la camaraderie. C'est l'esprit de famille qu'on a à l'intérieur d'une équipe de hockey. Ce qui ne manquera pas du tout, bien, le voyagement, autant que j'ai aimé ça, j'aime encore voyager, mais je trouve ça difficile. Puis moi, c'est ça que je suis un petit peu tanné, je suis tanné d'être fatigué. Parce que dans le hockey, comparativement aux autres sports, c'est go, 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 go tout le temps. Fait que tout le monde, souvent, sont fatigués. Les joueurs, les instructeurs, nous autres.
Ça fait quoi d'avoir une certaine reconnaissance dans un travail qui est un peu plus dans l'ombre?
Crois-moi, j'ai jamais couru après ça. Puis même les gens qui me connaissent bien, mes amis puis ma famille, ils le savent très bien. Très souvent, je suis reconnu partout où est-ce que je vais. Les gens, puis ils ont tout le temps des bons mots. Puis ça me gêne plus que d'autres choses, honnêtement. Ça m'a mal à l'aise plus que d'autres choses. Mais c'est de la reconnaissance, puis c'est bien cool, ça.
Il y a des gens que vous avez côtoyés à travers les années qui avaient, si on veut, quelques mots pour vous.
Puis là, il arrivait dans mon bureau le matin, il venait toujours prendre un café avec moi, puis je disais, « Jerv, c'est qui le meilleur coach que tu as jamais eu? » C'est toi, Mario. C'est toi le meilleur coach. Le best coach qu'on a eu, c'est toi. Puis là, on riait avec ça, puis tout ça.
Il s'occupait de ses joueurs, puis c'était un passionné, là. Tu sais, c'était un gars qui avait beaucoup de fierté à s'assurer que ses joueurs étaient là. Il avait tout ce qu'il avait besoin.
Il te connaît bien, il sait c'est quoi tes besoins, il sait c'est quoi t'aimes. Je pense que c'est ça une des meilleures caractéristiques des gérants d'équipement.
Le Canadien de Montréal était très chanceux d'avoir un gars comme lui dans son entourage.
Félicitations, quelle belle carrière. 3000 matchs et même plus. Fier représentant de la région de la Mauricie.
Avec toutes les superstitions que j'avais, puis tout le travail que je t'ai donné, aujourd'hui, tu mérites d'être à la retraite.
J'aimerais te souhaiter, mon cher Pierrot, une bonne retraite, puis le bleu bionique, t'adore, je t'aime beaucoup. Salut, mon chum.
Wow, vraiment cool. Vraiment cool. Venir des gars comme ça, là. Ouais. Merci beaucoup.
Bien, merci de nous avoir accordé ce temps-là.
N'importe quand, ça
fait plaisir. Puis bonne retraite.
Merci beaucoup.
Bonsoir, Michel.
Bonsoir, Noémie.
Alors, un policier de Montréal est sous enquête après une intervention brutale envers un itinérant noir.
Le SPVM qui a annoncé aujourd'hui la tenue donc d'une enquête à la suite d'une vidéo. Puis on va vous la présenter, cette vidéo qui a été publiée sur TikTok. On parle de 17 secondes environ. Ça montre deux patrouilleurs. L'un des deux policiers pousse l'homme contre un bloc de ciment au sol avant de l'agripper puis de le pousser un peu plus loin dans la ruelle. Là, le service des communications du service de police de la ville de Montréal n'a pas voulu préciser, parce qu'on a parlé à un porte-parole, n'a pas voulu préciser les circonstances de cette intervention-là. On nous a pas dit non plus où c'est arrivé, la date. à laquelle c'est arrivé, mais selon les informations de nos collègues de CTV, ça serait passé dans une ruelle du Chinatown, en fait, du quartier chinois à Montréal. Les policiers qui auraient également commis d'autres gestes violents à l'endroit de l'individu, mais des gestes qui n'ont pas été filmés, il y aurait eu des témoins. Alors vraiment, tout ça, c'est sur enquête. On va en entendre parler, là. C'est assez clair au cours des prochaines semaines.
Effectivement. Et le Canadien joue le dernier match de sa saison ce soir au Centre Bell.
Ça sera contre les Panthers de la Floride. C'est Carey Price qui sera devant le filet pour ce dernier match de la saison. Le match est à 19h. Puis nous, à 22h, on va revenir avec une analyse de Real Land.
Merci. Bye-bye. Merci d'avoir été avec nous. Bon week-end.